Kader Aoun, de Chaplin à Jamel Debbouze, en passant par l'Algérie.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est un oiseau qui m'a fait voyager dans l'humour, la vanne, la tchatche du petit et du grand écran. Un oiseau, un turbo, passé par Sciences Po et sorti tout droit du 9-3, notre chère banlieue. Kader Aoun, une rareté donc, catogan, sourire jusque-là et dans le fauteuil d'un sol majeur. Comment ça, c'est qui Kader Aoun? Eh ben, c'est le type de l'ombre qui te propulse dans la lumière pour te faire marrer. Un producteur, co-auteur, metteur en scène, manager, qui fin des années 90 intègre Canal+. Alors la liste de ses méfaits est longue. Jamel Debbouze, la série H, Omar et Fred, le Burger Quiz, les interviews décalées de Thierry Ardisson, jusqu'au film La Tour Montparnasse Infernale. Tout ça, c'est la faute à Kader Aoun. On ne connaît pas sa tête, encore moins sa vie, mais il est toujours aux manettes avec un sanglier sur le feu. Et le sanglier du moment se trouve notamment au Paname Art Café, c'est à Paris dans le 11e, où il couvre en ce moment 3 spectacles 100% stand-up. Bref, vous l'aurez compris, le truc de Kader, c'est la tchatche, la vanne, la punchline. Mais comment on va faire en sol majeur? Comment ça va, Kader Aoun?
Ça va très bien, le portrait était magnifique. J'ai juste deux petites rectifications.
Attention.
C'est que je suis pas un oiseau, je suis un chameau.
Ça commence.
Et c'est pas vraiment des sangliers, c'est pour des raisons de rite.
Bon, ça commence bien. Je reviendrai sur le chameau.
Il y a pas de souci.
J'ai l'impression d'avoir le type le plus branché de Paris devant moi.
Je suis le mec le moins branché que vous ayez jamais vu.
D'où ma question assez angoissée. Est-ce que ça vous arrive d'écouter RFI?
J'ai beaucoup écouté RFI à une ancienne époque, à l'époque où j'écoutais beaucoup de radio. C'est dans une ancienne vie, malheureusement, j'ai moins le temps maintenant. De temps en temps, je l'entre-écoute quand je prends le taxi. Parce que les taxis africains, bien Africa numéro 1 et RFI. Mais avant, j'écoutais beaucoup Juan Gomez et ses appels qui venaient du monde entier.
Mais il ne faut rien changer.
Et bah dès que je reprends une vie avec des horaires plus normaux, j'espère pouvoir réécouter RFI.
Il vous en prie. Pour nos auditeurs, en tout cas de RFI, qui auraient loupé eux aussi le phénomène Kader Aoun, un petit rappel de ce qu'on a pu aimer ou détester en regardant la télé.
Jamel, tu connais l'expression « être traité comme de la merde » ?
C'est une expression du Val d'Oise ?
Ouais. Et ben en ce moment, avec Sabri, on peut dire que tu es traité comme de la merde. You're treated like a merguez.
I'm treated like a merguez ?
Yes, you tease. Yes, you tease, my lord.
Moi, ma grand-mère, sincèrement, c'est ce qu'on a de plus cher au monde. Avec ses dents en or, là. Ma famille, comme on n'a jamais eu confiance dans les banques, on a tout mis dans la bouche de ma grand-mère.
Juif, arabe ou les deux? Questionnaire de rapidité, c'est parti. Ben Stiller.
Juif.
Juif. Benzema.
Arabe.
Mon médecin généraliste.
Juif. Juif. Les deux.
Non. Et non, il est arabe.
C'est moi. C'est...
Inventeur du Burger Quiz.
Juif.
Et non, c'est les deux.
J'ai rien dit.
C'est
et
qui
oui, cool. Je salue mon camarade et co-créateur Kader Aoun. Kader.
Voilà, pour en sol majeur, un petit peu de Jamel Debbouze, un petit peu de Burger Quiz, c'est mon préféré, un petit peu de la série H. Alors, il y a un point commun à tout ça, Kader Aoun, c'est l'humour servi sur un plateau télé. C'est quoi votre définition de l'humour?
C'est surtout pas définir l'humour, déjà. Il y a un vieux proverbe qui dit que quand on essaie de définir l'humour, on essaie de comprendre l'humour, c'est un peu comme quand on essaie de disséquer une grenouille. C'est-à-dire
oula,
que vous pouvez essayer de disséquer une grenouille, à la fin vous verrez comment c'est à l'intérieur, mais à la fin la grenouille est morte. Et c'est pareil pour les blagues.
Bon d'accord, pour l'image essayer... de la grenouille, d'accord. On et a donc, eu l'oiseau.
Donc faut pas essayer trop de théoriser sur l'humour parce qu'on est très vite pompeux, chiant. Vaut mieux essayer de faire des blagues. Salut les gars.
Est-ce que c'est de l'humour français que vous pistez ou est-ce que c'est de l'humour importé?
Je sais pas. Alors évidemment on le fait en langue française, donc c'est vraiment notre pays, c'est la langue française. Et il y a un côté très langagier dans l'humour français, de Coluche, enfin, même si on remonte jusqu'à Rabelais, c'est une caractéristique de l'humour français, c'est de torturer la langue, les néologismes que je ne sais pas prononcer, les expressions inventées par Coluche, par Jamel, et dis-moi pas que c'est pas vrai. Même Jamel, il y a une inventivité, une poésie dans une nouvelle langue qu'il a inventée.
Une urbanité de la langue, pour employer
non,
les grands termes?
Non, pas du tout. C'est pas un rapport à l'urbanité, c'est... Moi, il m'arrivait, quand je travaillais avec Jamel, de lui demander « comment tu dirais ça en Jamel ?» Parce qu'il a un paysage grammatical quand il va jouer un gamin, il va pas dire ils étaient, il va dire ils sontaient. Et ils sontaient, il se trouve que je sais pas pourquoi, mais c'est drôle. Et donc il y a un aspect très français dans ce qu'on fait, dans le rapport à la langue. Mais après, on est aussi arabe, on est aussi américanisé, on a plein d'autres couches dans notre identité, donc c'est pas que français.
Alors, qui est ce mec de l'ombre qui fait du rire en France un vrai business ?
Un vrai business, je crois pas, parce que...
Bah quand même !
Non, mais en fait, je pense que c'est très exagéré. Les gens aiment bien parler de business quand c'est des gens issus des quartiers populaires. Dès que ce sont ou des rappeurs, des chanteurs, des footballeurs ou des artistes ou des producteurs qui viennent de quartiers défavorisés, on va les remettre face à ce faux paradoxe où vous gagnez du fric et compagnie, alors qu'en fait, le fric, les chiffres d'affaires en matière d'humour, c'est ridicule par rapport à ceux qui gagnent vraiment du fric.
Vous allez me faire pleurer.
Non, c'est pas pour faire pleurer, parce que grâce à Dieu, on vit très bien, mais je pense que ce qui m'énerve un peu, c'est le fait de parler de fric. Alors que ceux qui gagnent vraiment du fric, c'est, je sais pas, Total qui fait 10 milliards d'euros de bénéfices. Et...
Ça, on va pas se battre là-dessus.
Non, mais
alors, je repose ma question. Qui est ce mec de l'ombre qui fait du rire en France? Voilà. Je vais arrêter ma phrase là. Pistons notre homme en sol majeur.
T'es comme tribu.
Est-ce que vous aimez bien ce mot, tribu, Kader Aoun ?
Ouais, j'aime bien tribu. J'aime bien communauté. J'aime bien communautaire, je sais que c'est un gros mot en France.
Communautarisme aussi ?
Ça, c'est carrément une idéologie. Donc, mais non, moi, j'aime bien être apprécié dans ma communauté, dans mes communautés. J'aime bien œuvrer pour mes communautés, mes tribus.
C'est qui vos communautés ?
Il y en a plein. Il y a la communauté des humoristes, il y a la communauté du Paname, il y a la communauté de mon quartier, la communauté algérienne. Il y a des communautés musulmanes, des mosquées auxquelles je contribue. Voilà, il y a plein de communautés. Et elles ne sont pas du tout exclusives les unes des autres. Et la communauté française, évidemment. Je suis très content d'avoir été formé par l'école de la République, de payer grassement mes impôts, ça me va très bien.
Et pourquoi vous fonctionnez toujours en tribu, vous pensez ?
Alors, c'est pas pour fonctionner en tribu, c'est pas un but en soi, mais en fait, il se trouve que, par exemple, les petits extraits qu'on a entendus de H, ou de Burger Quiz, ou toutes les autres aventures, le Jamel Comedy Club, Omar Afred et compagnie, ce sont des individualités qui se rencontrent et qui se mettent d'accord pour un but commun. C'est de faire en sorte que le tout soit plus que la somme des individualités et qu'on construise un truc ensemble, qu'on crée de la valeur. Si j'avais travaillé tout seul, j'aurais jamais réussi à faire tout ça.
Mais le sens du collectif et du groupe, vous l'avez en fait depuis...
Toujours ça, c'est un truc de quartier à 200% et de famille et où on n'existe que dans le collectif.
Voilà, depuis la cité, puisque vous avez grandi à la cité de l'Abreuvoir à Bobigny, donc dans le 9-3 en banlieue. Et surtout peut-être, enfin c'est lié, je sais pas, c'est une question d'ailleurs, et depuis vos années communistes, c'est important ça.
Ah bien sûr, on a été formés par le communisme municipal français, parce qu'on n'a rien à voir avec... tous les fachos et les staliniens qui ont complètement discrédité l'utopie communiste. Mais nous, on était très heureux d'être communistes. On allait à la fête de l'Imam manger des merguez et écouter Ray Charles et avoir des concerts.
Jusque-là, c'est sympa le communisme, ouais.
Oui, mais nous envoyaient... Moi, je suis allé à la mer grâce aux communistes. J'avais des nouvelles chaussures tous les ans. C'était les chaussures de la mairie. C'était un peu la honte de les porter, mais ils nous les donnaient quand même. Je suis allé à Moscou quand j'étais petit à planter des arbres de la paix. Je ne sais pas s'ils sont encore vivants. Je suis allé à Cuba, j'ai découvert le monde. Et puis, il y avait l'idée aussi qu'il y avait une utopie qui transcendait les races, les cultures et tout, qu'on était tous, en attendant le grand soir, tous pareils.
On votait pour qui à la maison ?
On était communistes. Enfin, mes parents ne pouvaient pas voter, évidemment, puisqu'ils n'avaient pas la nationalité française. Et mes frères et sœurs ont eu la nationalité française très tardivement, puisqu'il y a une grosse partie qui est née avant 62, et donc légalement, qui était algérienne. Je rappelle que le PCF était le seul parti qui était ouvertement contre la colonisation et pour l'indépendance de l'Algérie, donc ça jouait beaucoup.
Donc, né fils d'ouvrier, on va dire,
ouais,
Kader Aoun est fier de l'être. Donc, il y avait du partage en famille et au-delà avec le quartier. Est-ce que vous diriez qu'il y avait une espèce d'éthique de quartier ?
Il y a une éthique de quartier. Il y a une éthique et je dirais même, il y a une esthétique de quartier. Il y a un style, et d'ailleurs, c'est pour ça que la mode ou la rue s'empare au maximum de cette esthétique. Il y a un style des bad boys, des mauvais garçons. Il y a une insolence, il y a une beauté, il y a une manière de répondre aux flics. En fait, c'est un ensemble de valeurs aussi, et même de références culturelles qui étaient, je pense, très loin déjà du mainstream français. C'est qu'on savait pas du tout ce que c'était Claude François et tout ça, on n'écoutait pas du tout ça, on n'avait rien à voir avec ça. On était beaucoup plus orientés vers la musique black américaine, dès qu'on était gamin, quoi. Moi, j'écoutais Bob Marley ou James Brown.
Proche du Bronx.
Exactement. Donc déjà, dès le départ, on était quelque part en rupture parce qu'on se prenait un petit peu pour des Afro-Américains ou des Indiens dans les films de cowboy, quoi.
Ouais. Vous aimiez pas John Wayne, c'est ça?
Ouais, je détestais John Wayne.
Donc il y avait ça d'un côté, mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas fâché avec l'éducation nationale, et vous, le cadet d'une famille de 8 enfants, vous avez fait des études d'ingénieur en sciences de l'information et vous avez fait Sciences Po Paris. Mmh. Vous vouliez faire quoi de votre vie?
Moi, je voulais avoir la vie que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire surtout ne jamais être écrasé. Parce que moi, mon père, il est mort à 65 ans à cause de tous les boulots à la con qu'il a fait dans les fonderies et tout. Donc déjà, moi, je veux surtout pas mettre ma santé en jeu. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un article dans Le Parisien qui dit que les enfants issus de deux parents maghrébins ont deux fois plus de chances de mourir avant 65 ans que les autres dans la population française. Il doit avoir des raisons sociologiques, économiques et compagnie. Mais moi, je voulais surtout pas déjà qu'on m'abîme ma santé. Je voulais pas avoir de patron. Et je voulais avoir un job intellectuel dans lequel j'apprenne des choses tous les jours, c'est le cas.
Mais vous arriviez à projeter ça? Parce que ça n'existe pas, dit, sur le papier.
Si. Alors moi, on m'aurait dit, j'avais lu un truc de Sioran qui disait qu'il aurait pu être boursier toute sa vie. Moi, si on m'avait dit, voilà, à 25 ans, tu vas être boursier toute ta vie, j'aurais signé tout de suite. J'adorais apprendre des trucs. Voilà, il se trouve que j'ai trouvé un autre moyen, mais...
Ouais. Alors l'autre moyen, c'est qu'en 97, grâce à un certain Nicolas Plisson, vous êtes propulsé comme auteur à Canal+, vous faites notamment donc le vrai journal de Carl Zéro, puis l'éditorial du quotidien, l'émission Nulle part ailleurs, et puis de temps en temps, vous collaborez au Guignol de l'Info.
Très exceptionnellement.
Mais bon, vous êtes là où il faut, si j'ose dire. Comment vous avez fait pour séduire tous ces mecs cravatés de la télé?
Alors,
qui connaissent
Nicolas Plisson
rien
ne portait pas de cravate.
Oui, d'accord, ça va être l'exception. C'est votre mentor, je sens qu'on ne peut pas l'attaquer.
Non, on peut l'attaquer, mais je le défendrai. Mais non, mais de toute façon, il n'y aurait rien à attaquer du tout. Mais Nicolas Plisson était responsable de la veille un peu artistique et de recherche de nouveaux talents. À l'époque, la même année, il a recruté Jamel Debbouze et moi-même.
Les petits mecs de la banlieue, de Trappe et de Bobigny.
Je pense que ça correspondait aussi peut-être à des études, à ce que j'ai compris, de Canal+, qui étaient déjà un petit peu smart et qui voyaient qu'ils avaient besoin d'un truc un peu plus, entre guillemets, street, urbain, voilà. Et donc, ils nous ont recrutés. Ils étaient un peu intrigués par mon profil et puis ma grande gueule, sûrement. Alain Degreff, qui était le boss vraiment du contenu, aimait les auteurs, donc il venait tous les jours dans les couloirs de Canal+, ils venaient tous les jours passer un moment dans une pièce où il y avait les auteurs, où il y avait Bruno, il y avait moi et tout. Et moi, je me rendais pas compte que c'était exceptionnel. En réalité, que le Big Boss vienne nous parler comme ça. Et du coup, j'ai noué une relation avec lui. Et un jour, je lui ai dit, est-ce que t'as un truc dans une hôpital? Il y avait un appel d'offres sur les sitcoms. Je lui ai donné un truc le lendemain. Enfin, il y avait une espèce de rapport informel et de grande bienveillance. Et Alain Degreff m'a beaucoup aidé dans ma vie.
Et d'une manière générale, vous diriez que c'était l'idée pour vous, le but, c'était de prendre l'info classique et cravatée à contre-pied?
Alors déjà, moi, quand je suis sorti de Sciences Po, j'ai eu aucune... Enfin, j'ai envoyé des CV, personne ne me répondait, parce que c'est vrai que l'entreprise française peut être très raciste. Donc oui, ça existe. Grâce à Dieu, ils ne m'ont pas pris. Mais mon but, c'était... d'essayer de gagner ma vie, quoi. Il se trouve que je savais écrire des blagues et que c'est un moyen comme un autre et même plutôt cool, même si à l'époque le métier d'auteur était moins structuré et moins courant comme maintenant.
Écrivain, auteur de blagues, donc
exactement.
C'était ça votre
c'est
job.
Gagman, c'est aussi con que ça.
Gagman, ouais. Ça fait mieux en anglais, le problème c'est ça, quoi. Alors à l'époque, on rappelle que la banlieue, elle gronde en sourdine. On écoute NTM qui chante par exemple « Le monde de demain ». Ne vous étonnez pas.
Quoi qu'il advienne, nous appartient, la puissance est dans nos mains. Alors écoute ce refrain.
A priori, la marche des beurs, elle est déjà passée par là. Vous êtes tout minot quand la marche des beurs est arrivée en 83. Donc...
J'étais pas du tout minot, j'étais déjà très... Non, vraiment, à 12 ans, j'étais pas du tout minot sur ces questions-là, pas du tout. J'étais dans le défilé.
Ah
oui, bien sûr. C'est pour ça que j'en parle, c'est que je n'étais pas du tout minot. On savait très bien que les Arabes se faisaient tirer dessus en France, on était au courant.
Donc vous étiez dans une vraie colère, légitime par
rapport
à ça.
Ah oui, on était, en fait, on a été, sans s'en rendre compte, on a été formés comme des enfants de la guerre d'Algérie.
C'est-à-dire ?
Chez moi, la guerre d'Algérie n'était pas terminée quand j'étais enfant. On me demandait, quand j'étais gosse, tu préfères la France ou l'Algérie? Les flics m'ont contrôlé quand j'avais l'âge de 6 ans. Je voyais des flics se comporter de manière odieuse en permanence quand ils descendaient dans le quartier et tout. Donc nous, on était juste des félagas dans notre tête. Et aucun de mes frères et sœurs n'avait pris les papiers français. Mon père n'a jamais été français, ma mère n'a jamais été française. On était dans un truc de position claire.
Et, ça
et les profs nous considéraient aussi comme des félagas. Moi, j'entendais des profs me dire « j'ai maté tous tes frères et je te materai toi ».
Et ça a produit un gagman.
Oui, parce que c'est qu'une partie de mon identité. Mais après, écrire des blagues, c'est juste réussir à faire devant un ordinateur ce que des millions de gens font tous les jours dans les halls de quartier. C'est juste après rationaliser tout ça. Mais des mecs marrants comme moi, il y en a plein, plein, plein dans le quartier.
En tout cas, pour combattre le pouvoir, il y a évidemment la méthode douce et puis il y a la méthode public ennemi.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Qu'est-ce qui vous revient en tête, Kader Aoun, qui a un air canaille en écoutant Public Ennemi sur RFI? Qu'est-ce qui vous revient en tête?
Ce qui me revient en tête,
si vous parlez dans le micro, c'est encore meilleur.
Ce qui me revient en tête, c'est que ça, c'est la musique du générique d'intro de Do the Right Thing.
Le film de Spike Lee.
Qui a été vraiment un traumatisme pour plein de gens. Et pour moi en particulier, le générique représente une femme qui danse regard caméra, qui est l'héroïne du film, sur ce morceau. C'est-à-dire que ça rompt complètement les codes du cinéma, c'est que t'as une héroïne qui assume la caméra et qui danse sur un décor de clip. C'est-à-dire que toute la culture hip-hop est arrivée d'un seul coup avec ce film, leur manière de s'habiller, de se coiffer, de parler, de bouger. C'était complètement inconnu pour nous à Paris. Et on avait l'impression que c'était des frères du futur, quoi. C'est l'impression que j'ai eue. Et dans ce morceau, Chuck D dit « Elvis est un héros ». Pour la plupart d'entre les Américains, mais pour moi c'est qu'une merde raciste et j'emmerde John Wayne. Et quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment eu l'impression de voir des grands frères. Quoi.
Bienvenue en sol majeur, si vous nous rejoignez. Non, c'est un kiff
parce
ensemble.
Parce que John Wayne, je souffrais de le voir tuer tous ces Indiens. J'avais la rage, j'avais un petit pistolet en plastique sous ma table, c'est de tuer John Wayne, j'y arrivais pas. Et moi j'étais un Indien, ma mère elle ressemble à une Indienne, elle a des tatouages sur le front, une des dents en or et elle mesure 1m48. Donc pour nous c'était les blancs. C'était les cow-boys et puis nous on était les peaux rouges quoi.
John Wayne Wanted. Donc si vous nous rejoignez pour découvrir un turbo de l'humour et du stand-up à la française, signe particulier de Kader Aoun, il a le cœur métissé.
صلي على محمد زيد المختار هذه تليا تتبدل ناس ويا حضار محمد سيدي العزيز علينا يصرف فينا اليوم القيامة هو اللي يشفع فينا يا ناس يا حضار
او كم لوريجين دو موند.
Est-ce qu'on peut avoir l'image qui va avec cette voix, Kader Aoun ?
Oui, je viens de décrire ma mère, qui est une vieille squaw, qui a toujours chanté quand j'étais petit, quand elle faisait la cuisine, quand elle faisait le ménage, et j'ai toujours été bercé par ces chants-là, qui sont des chants un peu étranges de l'Est d'Algérie.
Chants chaoui ?
Là, elle chante en arabe, mais il y a des chants chaoui. Oui,
que vous pouvez chanter vous-même ou pas ?
Non, moi je suis juste... spectateur, mais ça fait partie de mon identité très forte, parce que ma mère parle à peine français, donc...
Est-ce qu'on peut ouvrir l'album familial deux secondes ?
Bien sûr, on est quatre filles, quatre garçons,
je suis le dernier. Et raconter un peu le trajet, l'histoire des parents.
Et ben là, mon père fait partie de la vague migratoire juste au début de la guerre d'Algérie en 54. Il se retrouve dans les Ardennes, comme beaucoup, beaucoup d'immigrés algériens. C'est-à-dire qu'en fait, quand un type partait dans une ville de France, il devenait un point de repère pour tous les gens de son village qui, à leur tour, rejoignaient ce coin. Donc là, c'était dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. Il y en a qui sont partis à Nancy, il y en a qui sont partis en Lorraine, enfin partout. Et donc, ils se sont installés là-bas. C'était avec un patronat patriarcal. Et ils avaient souvent des jardins ouvriers et compagnie. Il y a eu moins de boulot, donc il y en a beaucoup qui sont revenus à Paris. À Paris, souvent ces familles-là, c'est vraiment le cas de ma famille, se sont retrouvées dans des bidonvilles. Ça a pu être Nanterre, chez nous c'était Gagny. Mes parents ont fait un truc un peu bizarre, c'est qu'en 62, ils ont cru que l'indépendance de l'Algérie leur donnait l'opportunité de reprendre une chance en Algérie. Donc mon père est retourné en Algérie. Ça a été terrible économiquement. Il a acheté des moteurs qui ont fonctionné 40 ans plus tard encore pour faire des puits. Mais enfin bref, ça s'est mal passé. Donc j'ai deux frères et sœurs qui sont nés en Algérie à ce moment-là. Et ça a été trop dur, donc ils sont revenus en France. Et moi, je suis arrivé qu'en 71, donc je suis le huitième enfant. Donc je suis un peu un bourgeois parce que moi je suis né directement dans une vraie cité, alors que mes frères et sœurs ont tous connu les bidonvilles, vraiment les trucs d'un autre siècle.
Alors c'est bien que vous nous disiez tout ça parce que habituellement vous ne communiquez pas vraiment sur vos origines et je comprends assez bien, mais je rappelle, j'en profite, qu'en sol majeur en fait est né il y a pile 10 ans pour dire justement à feu notre ministère d'identité nationale qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les Français et qu'en plus l'identité éventuellement c'est un concept mobile. D'où ma question assez tranquille. Comment vous avez, vous, Kader Aoun, négocié cette question des origines entre une France amnésique et une Algérie assez susceptible ?
C'est qu'une partie de mon identité, cette dualité France-Algérie. Il y a plein d'autres identités. Après, je pense que la chance qu'on a quand on vient d'une minorité, c'est qu'on fait un peu un marché identitaire où on prend un peu ce qui nous arrange dans certaines cultures. Il y a plein de trucs super dans la culture algérienne, dans le rapport... à la responsabilité vis-à-vis du groupe, à une certaine forme de dignité aussi, pour défendre l'honneur de la famille. Il y a plein de choses qui me plaisent. Et puis après, il y a des trucs horribles, notamment dans le sort réservé aux femmes, aux bleds et compagnie, ça on connaît ça. Et donc, on peut faire d'autres marchés.
Vous faites votre tambouille.
Exactement. Et on essaie de faire ce que les Américains disent, the best of both worlds, le meilleur des deux mondes. Maintenant, dans le rapport entre la France et l'Algérie, je suis en rébellion contre les deux parce que autant en France, il y a une méconnaissance absolue de ce qu'a pu être la colonisation. Il y a des ordures qui ont même fait voter du temps de Sarkozy. Du temps de Sarkozy ?
Chirac.
Chirac, la
a
motion...
Non,
c'est passé à l'Assemblée nationale, il y a une motion qui reconnaissait le rôle positif de la colonisation.
Oui, il est bien fait de la colonisation, c'était sous Chirac.
C'est un truc de cinglé. Évidemment qu'on est en rébellion face à ça, parce que... la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que quand Macron parle de crimes contre l'humanité...
À propos de la colonisation.
Exactement. Il a été obligé de rétro-pédaler et tout. Et les gens lui sont tombés dessus. Mais en fait, personne ne connaît cette histoire. Est-ce que les gens savent ce que c'est que le code de l'indigénat ? Est-ce que les gens savent ce que c'est que les enfumades qu'il y a eu en Algérie ? Est-ce que les gens... Voilà. La colonisation n'a eu aucun bienfait. C'est de la merde. Et ceux qui prétendent le contraire sont des pourris.
Vous répondez toi à ceux qui disent « Écoutez, la colonisation a apporté les routes, les hôpitaux. »
Bien sûr, évidemment. Et c'est eux qui les ont fabriqués aussi.
Mais vous, en tout cas...
Donc, de ce point de vue-là, je suis vraiment en révolte. Et en même temps, je sais qu'en Algérie, il y a une instrumentalisation insupportable de la part du pouvoir pour expliquer les martyrs, la révolution et tout, et que les jeunes, ils en ont marre d'entendre cette chanson-là, et que la mise en accusation de la France, de la colonisation et tout, à un moment donné, ça va, quoi.
Mais en tout cas, en écoutant ce chant-là de votre mère, cette mère Sioux, comme vous l'appelez, c'est drôle parce que je peux dire ça de ma grand-mère, exactement, qui chantait, c'était pas un chant chaoui, mais cette maman algérienne qui est exclusivement arabophone.
Surtout.
Donc, vous avez dû jongler entre dedans et dehors. Dedans et dehors, c'était chikif-kif, quoi.
Hein. Bien sûr, alors déjà, il y a plein de chansons qui racontent l'histoire d'un Felaga perdu dans le Jebel et qui se retrouve blessé à lutter contre 50 avions français. Enfin, il y a vraiment plein de trucs.
Oui.
Et le truc du dedans-dehors, pour moi, ça va parce que j'ai été gâté, mais...
Gâté comment ?
Bah parce que ma vie s'est bien passée. Mais c'est vrai que le devant-dehors, il pose un problème, c'est que chez nous... Et notamment les garçons, et en plus moi je suis le dernier de la famille, on est mais vraiment survalorisés comme des rois, tu vois. Et ça, pour le mec qui se fait mettre à l'amende quand il sort de chez lui, par les flics, par les videurs, par l'institution, par la France en général, ça fait des chocs thermiques assez violents. Et dans les quartiers, c'est pas la seule raison, mais il y a beaucoup de fous. Beaucoup de gens qui deviennent fous, en fait.
Vous diriez à cause de ce hiatus-là ?
À cause du choc
thermique.
En partie, mais en fait il y a plein de raisons. Mais alors par contre, je peux vous garantir que chez nous, il y a 10 fois plus de fous que n'importe où ailleurs.
Est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui, celle qui est en train de tenter de se mettre debout, est-ce qu'elle vous intéresse, Kader Aoun ?
Bah oui, parce que moi, quand je vais en Algérie, c'est pour voir mes cousins.
Non, mais les cousins, c'est gentil, mais là, on parle de l'Algérie politique.
Oui,
là.
Mais c'est de ça que je parle, c'est que je les trouve hyper vivants. Moi, c'est que ça pour moi, l'Algérie, c'est la famille. Je la connais pas bien, je connais que mes cousins, à qui je suis très attaché. Et je sais que, par exemple, Rachid Bouchareb, le réalisateur qui vient d'ailleurs de chez nous, de mon quartier, il va tous les vendredis et il me raconte que c'est...
Place de la République à Paris, ouais. Pour soutenir donc...
Non, il va tous les vendredis...
En Algérie.
Ouais, en Algérie, pour filmer, et il me dit que c'est fou ce qui se passe, ça donne envie d'y aller parce que l'espace public est tellement confisqué, il n'y a pas de mixité, il n'y a pas de bien-être en vérité à Alger. Donc là, il découvre un truc qui doit être hyper beau à voir, que je n'ai pas encore expérimenté, mais ça m'intéresse évidemment.
Alors avec cette colère que vous nous décrivez, en fait, qui est bien affichée au cœur, même si vous vous présentez comme un gagman, vous êtes quand même dans la vanne, dans la boutade aussi beaucoup.
Oui,
vous
sûr,
dites des choses évidemment graves derrière la boutade. Est-ce qu'en amenant toute la clique, les Jamel Debbouze, les Omar Sy, les Eric et Ramzy, tous les petits gars de la banlieue, qui fait partie de cette minorité qu'on divise, comment on dit déjà ?
Visible,
ouais. À balancer comme ça leur humour sur le petit écran de la France entière, est-ce que ça a été une forme de militantisme pour vous ?
Bah, je pense qu'ils ont tous conscience, tous les gens que vous avez décrits, qu'il y a la notion que les Américains dans le rap désignent sous l'expression « represent ». On est là, on « represent ». Et donc, moi, tous les jours, je croise des gens des quartiers qui me disent represent. Donc ça, on en a parfaitement conscience, parce que le simple fait qu'on soit là, quand j'étais petit, quand on voyait un arabe dans un générique télé, on était « Ah, il y a un arabe là-dedans ». Et donc, on a ouvert des portes, on est rentré, on a après ouvert les portes de derrière en montant le Jamel Comedy Club, j'ai monté des poules d'auteurs. Ça se passe que par capillarité, comme ça, de gens qui se rencontrent, qui se touchent, c'est des petits réseaux. Je pense que Amine Khaled, qui bosse au Rond-Point, a été le premier à parler de nous.
Du Rond-Point à Paris.
Qui a été le premier à parler
très,
de nous.
Très, très parisien, hein. Très franco-français.
Non, ici, c'est Paris.
Bienvenue dans le monde avec RFI. Hein.
Oui, Paris, c'est le monde. Je me sens vraiment, vraiment chez moi à Paris. Et quand je suis en province, je ne me sens pas aussi français que ça. Quoi.
On dirait ça. Mais, alors, après avoir mis en scène ou produit pas mal de beurre, voilà que vous vous intéressez à un certain Abdelkader Sektor. C'est un humoriste algérien qui a 53 ans. Je donne l'image, il est un peu cheveux poivre et sel. Grand observateur de la société algérienne, qui a été repéré d'ailleurs, je crois, par Jamel Debbouze lui-même dans les années 90. Et dans la foulée, bah, il a été un peu obligé de faire une demande de visa. Alors attention, ça va un peu causer arabe dans le poste.
Exactement en 1991, la demande de visa que nous avons la France. Tu vois, dans le visa, vous درت لا دوموند الفيزا وبعد نستنى الفيزا تجيني وعلى بالك كي دير لا دوموند الفيزا هنا في البلاد تولي تحب الفاكتور سقسي غير عليه كي تنوض الصباح فات يما قول صباح الخير وفات ولا لا عندي واحد صاحبي دار 43 دوموند تالمون الفاكتور جا لدارهم خطب خطو
Merci Abdelkader Secteur pour Ensemble Majeur. Vous êtes bien sur RFI. C'est pas mal qu'on entende un peu d'arabe.
Là, c'est de l'arabe.
Pas surtitré, hein, d'ailleurs. Et ça sera le cas au Casino de Paris les 23 et 24 novembre prochains, Kader Aoun. Donc on a un peu besoin de vos lumières d'arabophone.
Là, c'est de l'arabe très patois. Hein. Il y avait un mot sur deux, facteur.
Patois, vous dites, vous ?
Je plaisante. Mais oui, c'est un patois, je pense qu'en
c'est
termes linguistiques. Derija, ouais. Oui, mais pour un Libanais, il entend ça, il va nous prendre pour des créoles.
Il n'y a pas match.
Ouais.
Traduction, alors.
Mais c'est très drôle. Il raconte que quand vous faites le demande de visa, à la fin, vous finissez par aimer votre facteur, et c'est la première chose qui vous intéresse dans la vie. Il raconte carrément qu'il y a un pote qui a tellement fait de demandes de visa qu'il a carrément demandé la sœur du facteur. Hein.
Alors, pourquoi Abdelkader Secteur ?
Alors, c'est un truc de fierté, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens... qui sont jamais allés au théâtre, de famille algérienne, marocaine aussi, il est très apprécié chez les Marocains. Et quand on programme Abdelkader Secteur, on se retrouve à la Cigale, au Casino de Paris, dans des théâtres pleins à craquer, à faire sortir des familles entières qui sont jamais allées au théâtre de leur vie, et de les voir dans un état d'hystérie, parce que Secteur fait rire les gens, mais c'est pas possible, quoi.
Et vous avez été branché Fellag, pendant les années Fellag ?
J'aime beaucoup Fellag aussi. Secteur est... encore plus, comment dire,
mais il est plus stand-up, lui, hein, déjà aussi.
Encore,
non,
non mais même
forme.
Si Fellag, j'adore Fellag, mais Secteur, on a vraiment l'impression d'être sur une terrasse, sur un star au bled, et qu'il y a un cousin très marrant ou un oncle très marrant vous raconte ses histoires.
Alors, puisqu'on est dans l'humour, est-ce qu'on peut dire qu'après la colonisation française, c'est un peu la colonisation arabe qui est en marche en France ?
Ça, c'est un thème cher à Renaud Camus
Non,
je plaisante. On n'est pas dans une démarche coloniale. Non,
après, les boucheries halal, un petit peu partout en France, un petit peu d'humour halal.
Non, on n'est pas là-dedans du tout. Il y a un public là. En l'occurrence, pour Abdelkader Secteur, c'est très particulier. C'est un public 100% communautaire. C'est pas un spectacle qui a vocation à conquérir le reste du public francophone.
C'est dommage. Donc, pourquoi pas surtitrer ? Parce que vous auriez.
Parce qu'il est. Non, mais j'aurais adoré. J'y ai pensé, mais c'est un peu compliqué parce que Secteur fait la part belle à l'improvisation. Il faudrait qu'on fige un peu plus le spectacle.
Oui, mais vous trouvez. Il y a un boulot pédagogique à faire. Pourquoi ne pas amener le public francophone français justement sur les rives de cette culture-là ?
Ça serait super. Ça sera sûrement la prochaine étape avec Secteur.
Parce que là, on reste entre communautés. C'est dommage.
Après, il y a aussi une autre raison. C'est, je ne sais pas, de trouver des raisons de.
Si, visiblement.
De pas le faire. Mais un petit peu. Mais il y a une raison, c'est qu'il y a une dimension très langagière.
C'est vrai.
Et donc, il y a des choses qui supportent mal la traduction.
15-0 pour vous. À propos d'humour halal, voyons ce qu'en dit Blanche Gardin. C'est une humoriste récemment moliérisée.
Alors en plus, il y a un thème à la soirée. Je déteste les soirées à thème. Et rien de pire que faire tapisserie dans une soirée déguisée. Le thème, c'est donc humour sans frontières. Qui a choisi ce thème ? Probablement pas un humoriste. Hein. Je veux dire, c'est pas un thème. Je veux dire, c'est un programme humanitaire à la limite, mais ça veut rien dire. C'est absurde. Ça n'existe pas. Humour sans frontières. Il y a pas d'humour. Il y a pas d'humour universel. L'humour, c'est culturel. On rit pas des mêmes choses dans les mêmes pays. Je veux dire, humour sans frontières, il y en a pas. Enfin, il y a des frontières dans l'humour au sein de chaque pays. Ça, c'est sûr. Hein. En France, c'est les Juifs. C'est la frontière à pas dépasser. Aux États-Unis, c'est les Noirs. En Roumanie, c'est les Roumains.
J'y comme j'aime, j'aime pas.
Charlie Chaplin.
Charlie Chaplin, c'est la grâce absolue. Moi, je regarde tout le temps, toutes les semaines des vidéos de Charlie Chaplin.
Ah oui, ça reste une
sûr.
Référence. Une source.
Évidemment. Oui, parce qu'en plus, il y a le côté manière invisible, très sociale, parce que c'est un personnage de clochard, low class.
Donc le côté populaire là, que vous valorisez.
Est tellement inépuisable. Il y a un nombre d'idées à chaque plan, dans Le Kid, Les Lumières de la Ville. Je peux revoir ça 100 fois.
Ça n'existe plus, ça, ce burlesque là visuel.
Alors sur Instagram, il y a des comptes Charlie Chaplin hyper réussis.
Il faut aller jusqu'à Instagram.
Oui, mais franchement, il y a des vidéos, mais c'est dingue.
La comédie française.
Comédie française, moi, je suis très fan de comédie française. Je suis un peu old school là-dessus. C'est-à-dire que je pense que la dernière comédie française, estampillée comédie française, les dernières, Ça remonte aux années 90. Après, les heures glorieuses...
Écoutez, un Racine à la Comédie Française, c'est encore possible ? Est-ce que vous êtes
client ? Ah non, vous parliez de la Comédie Française. Le théâtre, la Comédie Française, ou je pensais la Comédie Française ?
Non, c'est intéressant, la langue française. Hein.
Oui.
Bonjour, Kader.
Ah non, la Comédie Française, l'endroit... Alors, je sais que j'ai appris avec surprise que ça restait le théâtre le plus fréquenté de France.
Ah oui, pas par vous, en tout cas.
Non.
Pourquoi ?
J'aime bien voir un Molière, mais je préfère les auteurs vivants, parce que du temps de Molière, il était vivant, et les gens allaient le voir quand il était vivant. Mais c'est super Molière, je connais. Quoi.
Et alors du coup, cette déferlante de stand-up, vous voyez, c'est pas gentil comme je dis ça.
Ouais, hein. Déferlante, ouais.
Ouais. Est-ce qu'elle n'est pas en train de tuer justement ce théâtre qui vous intéresse
pas du tout, parce que
jusqu'au Festival d'Avignon qui accueille le Comédie Club d'Avignon, et d'ailleurs, il y a un de vos poulains qui va se produire à Avignon.
Oui, il y a Mathieu Madénian, mais Avignon, il n'y a quasiment pas de stand-up. Il y a beaucoup de textes classiques. Et
ça vous ennuie ?
Pas du tout, mais en fait, il faut les deux, il faut marcher sur les deux jambes. Mais moi, je suis un auteur vivant, donc...
Mais vous qui êtes passé par Sciences Po, qui êtes un brillant, vous êtes un turbo, vous êtes une tronche, mais c'est vrai, vous faites celui qui, mais ça prend pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'œuvrer davantage pour une forme de sous-culture plutôt que pour la culture avec un grand C ? Et oui, c'est la question.
Non, mais moi, ça me va très bien, la sous-culture. Hein. Ça me va très bien d'être chez les gueux, ça me va très bien. Hein. J'ai pas du tout envie de montrer patte blanche et de faire croire qu'on est digne d'un certain regard qu'on peut accorder qu'à cette culture-là.
Il ne peut pas y avoir un compromis entre le grand rire populaire et puis quelque chose d'un peu plus élaboré.
Non, mais si je dis ça me va très bien, c'est que vraiment, j'en ai vraiment rien à foutre de ce que les classes qui sont en charge de décerner les lauriers peuvent penser de moi ou peuvent penser de ce qu'on fait.
Oui, mais vous avez une responsabilité. Vous avez sans doute été très critique, j'imagine, par rapport aux médias français ou occidentaux sur la manière dont ils parlaient des petits gars de banlieue, par exemple. Est-ce que maintenant que vous êtes dans le système vous-même, Kader Aoun, est-ce que vous n'avez pas une responsabilité ? Vous êtes leader d'opinion.
Mais oui, mais ça quand même, on essaie de...
devrait dans
le bon sens, hein. je sais pas, j'ai l'impression. Mais sur la question de la sous-culture, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident, par exemple, que la musique classique est plus noble que ce que fait Stevie Wonder. Mais moi, je suis pas d'accord et j'en ai strictement rien à foutre.
Bienvenue au club.
Voilà. D'abord, on fait pas que du stand-up, on fait plein d'autres choses. Mais s'il y a des gens qui veulent considérer que n'importe quelle pièce à la Comédie Française est plus intéressante qu'un monologue de stand-up, s'ils veulent, mais on verra, quoi.
Le mouvement Décolonisons les arts. Est-ce que vous kiffez ou pas ?
Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce mouvement, mais...
Bah, c'est un mouvement, je rappelle juste, c'est un mouvement qui est emmené par les intellectuels, les chercheurs, les artistes. Vous êtes vraiment un chameau, hein ? Vous manque de l'eau. Ouais. Et qui dénonce un racisme structurel au sein même de la culture, parce qu'il y a un préjugé qui veut que finalement il n'y ait pas de racisme dans la culture, au sein même de la culture.
Mais ça existe évidemment. Alors, je ne connais pas ce mouvement. Je pense en deux temps que... Il faut s'affranchir aussi du colon qu'il y a dans notre tête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus voir ça avec ce prisme-là, même si nous, on a été élevés comme ça et qu'on est un peu parano parfois et qu'il faut savoir se débarrasser de ça. En revanche, c'est évident que n'importe quel musicien black, on va le folkloriser, alors que quand c'est David Bowie, on va vous dire que c'est un génie tout de suite. Donc c'est évident que Bob Marley, il n'est pas respecté autant que pourra être respecté John Lennon. C'est des choses. Mais après, vraiment, on n'en a rien à foutre, quoi.
Ben si, ça nous intéresse quand même, parce que les portes, elles sont ouvertes ou fermées.
Comme un breaker, danseur de breakdance, il ne sera jamais payé par l'État comme peut l'être un danseur classique.
Mais est-ce que ça évolue ? Est-ce que vous, de votre fenêtre de tir à vous, Kader Aoun, vous avez l'impression que c'est un peu moins difficile aujourd'hui pour les Noirs et les Arabes, notamment ?
Surtout pas. Alors, je pense pas que
dans la culture en France.
Je pense pas que ce soit plus difficile. Je pense, alors,
j'avais dit moins difficile, moi.
Je pense pas que ce soit moins difficile. Je pense parce que les quartiers sont durs aujourd'hui. Après, il y a plein de sujets autour de ça. Parce que, par exemple, le cinéma français, je pense qu'il est profondément ouvert à la diversité, qu'il y a plein d'Arabes et de Noirs qui sont très respectés, de Abdelatif Kechiche à Reda Kateb, à Tahar Rahim, à Rachida Brakni. Enfin. Le cinéma français est beaucoup plus ouvert qu'une grosse partie de la société française. Alors, moi, j'ai une réponse plus pratique là-dessus, c'est qu'on nous respecte un peu plus quand on fait des succès et qu'on gagne de l'argent.
Dès qu'il y a le fric, ça fait la différence. Black Panther.
Exactement. Mmh. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis dans un circuit qui n'est absolument pas un circuit de théâtre public. Je n'ai pas le luxe de vivre là-dedans. Je suis un fils de prolo, il faut qu'on gagne de l'argent. Mmh. Et quand on gagne de l'argent, les gens vous regardent différemment.
Bon, vous, Kader Aoun, vous et votre côté un peu titi parisien dans l'accent, et vous et votre catogan, je vous emmène à Paname. Un petit melting pot avec un petit Larsen du Paris que vous aimez, Kader Aoun.
Ouais, on est des Parisiens.
Ouais, c'est quoi
vrais... Alors, c'est un truc que, dans l'identité aussi de banlieue, c'est qu'on est des vrais Parisiens. Il n'y a personne qui connaît Paris.
Les banlieusards sont plus parisiens que les parigots.
Bah, déjà, ils ont tous été coursiers, taxi. Il n'y a personne qui connaît Paris comme les rebeux. Ça n'existe pas. Mais vraiment, oui. On est vraiment des Parisiens, quoi. Et l'accent des faubourgs, moi, quand j'entends les tontons flingueurs qui parlent dans le film, ça se passe à Pantin. Vraiment, ça ressemble. Il y a une généalogie, une continuité dans ce que vous pouvez voir de ce cinéma populaire des années 50-60 et notre manière de parler, de rire. Il y a évidemment des affinités.
Donc il y a une filiation là aussi. Évidemment, dans cette France-là.
Évidemment, il y a un truc hyper franchouillard, hyper conversation sur un comptoir. Quand j'entends certains gars du 19e parler, j'ai l'impression d'entendre du Michel Audiard. Ouais.
Et puis quand vous prenez pas les taxis là où on écoute RFI, vous tombez dans le métro sur des perles.
Moi j'adore ces rappeurs Rome, je trouve ça fou. Comme ils sont.
Alors, c'était juste entre NTM, là, oui, avec NTM.
C'est hallucinant le flow qu'ils ont. Toutes les langues se prêtent pas forcément au rap, mais leur roumain, là, je sais pas ce que c'est, mais c'est fou comment ils ont du style, comme ils sont marqués par la vie en plus. Plus gangs de rap que ça, je connais pas.
On va m'accuser de donner un petit peu dans le délit de faciès, mais je prends le risque. Je trouve que vous avez vraiment une tête de fêtard bobo, Kader Aoun.
Alors, bobo, franchement, c'est sûr que non. Parce que bobo, il n'y a aucun bobo qui habite dans ma cité. Hein. C'est...
Oui, mais vous avez largement les moyens d'habiter ailleurs.
Oui,
c'est ça le
pareil.
Bobo, justement.
Non, le bobo, c'est pas ça. C'est une catégorie sociale extrêmement précise qui est hyper bien décrite par Chalot et Pinson dans leur bouquin Sociologie de Paris. Les bobos, ils sont pas du tout issus de quartiers pauvres comme moi.
Oui, mais vous êtes passé par Sciences Po, etc.
Mais je précise
la,
tout ça.
La méritocratie, vous l'avez.
Non, mais je précise tout ça parce que. Quand même, j'ai aucun mépris pour les bobos parce que tout leur système de valeurs, il est hyper noble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, c'est devenu un truc un peu infamant, péjoratif et tout, mais c'est que des gens qui sont pour le commerce équitable, pour l'équité sociale, pour...
Et je vous imagine comme ça, hein, donc
Non, mais moi, je fais pas partie de cette classe sociale. Parce que tout simplement, déjà, les bobos, ils sont blancs. Et ils traînent que entre blancs, ça, c'est un de leurs gros défauts.
Mais vous êtes aussi blanc.
Non, je suis pas blanc du tout. Moi.
Ça veut dire quoi, je suis pas blanc?
Mais les bobos aiment bien boire leur rosé sur des faux tonneaux de bar du 11e. Ils écoutent du Carla Bruni, ils ont leur système de valeurs esthétiques dans lesquelles je me reconnais absolument pas. C'est très bien pour eux, j'en ai rien à foutre.
C'est NTM et c'est sans alcool. On va terminer justement à propos de Bobo avec un son volé de ces stand-up que vous défendez en ce moment, Kader Aoun, dans ce coin Bobo du 11e arrondissement.
Ah oui,
alors là, on peut le dire,
oui,
là.
Oui.
Vous êtes comme chez vous, comme un poisson dans l'eau.
Je suis partout chez moi, on est partout chez nous, la terre elle est ronde.
Il a réponse à tout. C'est le Paname Café Théâtre. Alors j'aurais aimé qu'on ait un son vraiment digne de ce nom, mais c'est des sons de répète.
Exactement.
Donc je vous embrasse et je vous aime.
iPhone,
voilà, c'est enregistré avec un téléphone portable, on dit, pour la radio, merci.
Yeah. Après-midi, j'ai enregistré le grand cabaret de Patrick Sébastien. Voilà. J'ai la même réaction que toi quand on a commencé. C'est mon attaché de presse. C'est mon attaché de presse, ça m'a appelé. Il dit, Mathieu, on va faire cette émission. Ça permet de jouer dans un endroit où personne ne joue.
Alors, Kader Aoun, dites-nous, donnez-nous l'image et pourquoi il faut aller au Paname en ce moment, les vendredis et samedis
Ah non, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. Là, avec Mathieu, on répétait du mercredi au samedi. Mais il y a Nawel Madani, il y a Norman, il y a Hugo tout seul, il y a plein de très bons stand-uppers qui passent tous les jours.
C'est quoi un bon stand-upper ?
C'est quelqu'un qui amène un truc que les autres n'ont pas.
Exemple.
On parlait de hip-hop, c'est proche de la danse hip-hop, c'est-à-dire que il y a des danseurs, on connaît toute la grammaire hip-hop, mais il y a des danseurs, quand ils dansent, il se passe un truc qu'on n'a pas vu avant. Et ben là, c'est pareil pour le stand-up, c'est que il y a des gens, vous les voyez, et puis c'est qui ont un style, quoi.
Bon, Tout humoriste qui se respecte a une belle angoisse de mort. Ça, c'est pour citer la philosophe Blanche Gardin. Est-ce que c'est votre cas ?
L'angoisse de mort, non, je ne suis pas si angoissant du tout, non.
C'est pas une planque, le rire, pour vous ?
Non, mais ça peut être une planque, mais en tout cas, la mort ne m'angoisse pas du tout.
Votre Dieu, à vous, c'est quoi ?
C'est une question qui mériterait un peu plus de temps, mais non, moi, je suis musulman, donc il y a un Dieu, voilà.
Je pensais que vous alliez me faire une vanne, vous voyez.
Moi. Non, mais il y a vraiment...
Zéro humour, là.
Là-dessus, non, mais Dieu doit avoir des vannes de fou, parce qu'il a aussi inventé l'humour, donc attention.
Et vous connaissez pas une vanne de Dieu, pour finir ? Pour la route ?
Non, une vanne de Dieu, non, faudra faire attention à pas blasphémer, c'est tout. Mais vraiment, il a inventé les blagues, donc...
Donc il y a bien une limite, hein, dans l'humour, alors, finalement. Bah, votre Dieu, c'est le rire ?
Non.
Surtout pas ?
Non, Dieu chez nous, c'est une entité unique. Et c'est tout chez nous, quand je dis chez les musulmans, c'est avant tout le principe de l'unicité de Dieu.
Il y a comme un silence. Un ange passe.
On est sur RFI.
Merci à Hafid Aboulayan. Je donne mes sources. C'est grâce à lui que vous êtes dans ce fauteuil dans Sol majeur.
Merci à Hafid.
Et j'invite nos auditeurs donc à pousser la porte du Paname Café Théâtre. C'est au 14 rue de la Fontaine au Roi. C'est du côté de République à Paris, avec donc 3 sangliers sur le feu. Je suis désolée, hein, voilà. Je reste dans ma métaphore. 3 one-man
show. 3 sangliers halal.
Défendu par Kader Aoun. Et pour refermer cet ensemble majeur, je vous donne le choix entre soit les Stones, avec Jumping Jack Flash que vous aimez, soit Sheba Fadela et Cheb Sahraoui.
Alors c'est Sheba Fadela et Cheb Sahraoui à 200%.
Mais pourquoi?
Parce que le morceau de Selfie qui était un des plus beaux morceaux, des plus entêtants qui ait jamais été écrit sur Terre.
قسم لي خاطري لله يا لله انا نبغيك عينيا انا نبغيك دلالي
Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio et là où on préfère, derrière le poste, chaque samedi et chaque dimanche. À 14h10, temps universel, 15h à Paris, on vous retrouve, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, demain avec Monsieur Aldo Nahouri. À demain.